Alors là, on est à Coulon sur le convoi et on fait un petit point sur ce qui se passe ailleurs en termes de perquisition et ailleurs que sur le convoi.
Oui, donc ailleurs, c'est-à-dire en ce qui concerne toutes les opérations préventives menées par la police avant la COP21. Donc jusqu'à maintenant, il y avait les manifestations qui étaient interdites dans plein d'endroits, comme déjà tout le monde le sait. Mais là, hier et avant-hier, il y a les premières assignations à résidence qui sont tombées pour des militants écologistes, disons, ou plutôt affiliés à l'extrême gauche, ce qui n'était pas arrivé et qui laisse à présager des temps assez terribles. Et donc, pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé, à Rennes, il y a eu 6 perquisitions dans des appartements ainsi que 6 assignations à résidence. Il faut savoir que les policiers sont arrivés armés de fusils mitrailleurs et de fusils à pompe, ont mis tous les gens au sol et menottés dans le dos. Donc ils étaient en mode commando et ils prétendaient chercher des armes et des explosifs. Ils avaient une série de. Une petite liste de choses qui leur permettaient de justifier leur intervention, ou en tout cas de justifier que ces personnes-là allaient certainement se rendre à la COP21 sur Paris. Et ces choses, c'était d'avoir participé en 2014 à la manifestation du 22 février à Nantes, d'avoir participé au week-end contre l'armement de la police à Pont-de-Buis, donc dans le Finistère, fin octobre, et d'avoir été dans un squat qui a été expulsé à Milan en mai 2015, avec soi-disant des cocktails Molotov, donc ces informations-là sont très approximatives et partiellement fausses pour certaines personnes en tout cas, quoi. Et ensuite, à Rouen, il y a 3 personnes qui ont été assignées à résidence. Ces personnes-là, elles ont reçu une convocation chez elles. Du coup, les modes d'opération de la police dépendent des préfectures. Et à Lyon aussi, il y a très certainement une personne qui a reçu une assignation à résidence aussi. Et à Paris, 3 personnes, comme ça a déjà été un peu diffusé, ont reçu une assignation à résidence. Et donc voilà, tout ça n'est jamais médiatisé dans la presse. À chaque fois, c'est les personnes concernées qui ont fait des communiqués. Et c'est très important de communiquer là-dessus parce que ça, déjà, ça concerne directement les convois, l'organisation aussi au sein de la lutte de Notre-Dame-des-Landes, etc., quoi. Et donc voilà, il faut communiquer. Oui, simplement pour dire que là, les policiers sont arrivés armés. C'était un peu pour... on sent que c'est beaucoup pour faire des coups de pression parce qu'ils ont fouillé très sommairement les appartements. Ils cherchaient des armes et des explosifs, mais ils n'ont vraiment pas cherché partout. Ils ont fait très peu de photos et ils n'ont rien pris, en fait. Simplement, ils ont donné les papiers d'assignation à résidence aux gens et leur avoir fait peur. Voilà. C'est tout, quoi.
Il y a actuellement la quadrature du net qui fait tout un listing de choses qui n'ont rien à voir avec les motifs de l'état d'urgence et dont ils profitent. Et donc, t'as énormément d'éléments comme ça, déjà de fouilles, de trucs.
Bah oui, c'est sûr que ça commence à sortir dans la presse un peu que y a des choses totalement aberrantes, notamment par exemple là le convoi Est, il est passé à Sens où il y a eu une des seules villes de France où il y a eu un couvre-feu. Et quand tu vas dans le quartier des Champs-Plaisants, des gens ils sont allés pour discuter avec les gens. Et c'est hallucinant, quoi. En fait, ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'ils ont fait des perquisitions chez des personnes musulmanes qui avaient des ports d'armes, en fait. Du coup, ils ont chopé des fusils. Ça, c'est ce que les gens disaient là-bas, quoi. Et juste parce que c'est un quartier vaguement sensible, mais qui encore n'est pas du tout au même niveau que d'autres quartiers, quoi. Et du coup, les gens avaient vraiment l'impression que c'était un méga coup de pub, où en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as le coup d'urgence. Le couvre-feu qui a été annoncé. Au moment de la mise en place du couvre-feu, t'as tous les flics qui sont arrivés, qui ont mis des barrières et la presse qui est arrivée. Après, ils sont partis, les barrières elles ont été écartées et les gens juste disaient que c'était une blague, quoi. Après, certainement que ça a mis une ambiance pas très marrante dans le quartier, quoi. Donc voilà, ça c'est un des exemples, il y en a plein, mais par contre quand même on voit que ça commence à sortir dans la presse, mais que c'est encore tout à fait inaudible à côté du fait que toute la France soi-disant s'élève pour la sécurité, quoi. Et c'est hyper important de diffuser là de l'info là-dessus, parce que vraiment, peut-être ça va pas durer éternellement, mais là la police est en train de faire ce qu'elle ne peut pas faire depuis des années, c'est-à-dire être totalement décomplexée, se permettre de débarquer n'importe quand chez les gens qui connaissent, parce que c'est des militants, et qui peuvent pas faire ça d'habitude parce que il y a des procédures qui l'empêchent, quoi. Là, juste, c'est décomplexé, quoi. Il s'amuse, quoi. Clairement.
Il y a aussi sur Le Monde un certain nombre d'informations. Il y a une veille sur ces perquisitions qui ont commencé à partir tout de suite après le 13 novembre. Ils chiffrent toutes les informations qu'ils ont pu recueillir, notamment dans la presse locale. Ils chiffrent le nombre de personnes qui ont été assignées à résidence, toutes les personnes qui ont été perquisitionnées, et de chercher qui sont ces personnes et pourquoi est-ce que il y a eu ces opérations chez eux. On peut voir notamment qu'il y a, par exemple, Ibrahim Maalouf qui a été arrêté dans le train, qu'il y a eu une enfant de 6 ans qui a reçu un projectile suite à un coup de fusil à pompe dans une porte. Elle a été blessée au cou, une enfant de 6 ans, pour qu'ensuite ils se rendent compte que c'était une erreur. Donc ils disent qu'ils sont pas rentrés en donnant un coup de fusil à pompe, mais le fait est que c'est bien un bout de la porte qu'elle a reçu dans le cou, sachant que sa chambre était juste à côté de cette porte. Qu'il y a un grand nombre de ces opérations qui s'avèrent être complètement infructueuses qui sont ce qu'on peut plus appeler des bavures, mais réellement une action de masse et complètement aveugle qui permet de renforcer encore le climat d'insécurité, parce que en fait c'est clairement eux qui sont les instigateurs aujourd'hui de ce climat d'insécurité, et qu'ils le font dans une impunité relative, en tout cas, parce que pour l'instant, effectivement, jusqu'à hier ou avant-hier, ça ne s'était orienté que sur des quartiers dits sensibles, et pas encore sur des militants. Donc on voit bien qu'une fois qu'ils ont passé ce qui les gêne politiquement, de façon racisée, maintenant c'est bon, ils peuvent aussi le faire politiquement sur les contestataires, que tant qu'il n'y aura pas de mouvement gauchisant qui s'élèvera massivement contre ça, ils pourront continuer tranquilles, quoi. Maintenant il faut faire tourner cette information à fond, arrêter de penser que c'est que le voisin qui est concerné et que nous on est encore tranquille et que tant qu'on est tranquille on va se taire, parce qu'en vrai le fait d'aller en face, le fait de l'élever, de le dire, c'est rentrer dans un rapport de force, quel qu'en soit le moyen de pouvoir en parler. Ça permet aussi du coup de faire se rendre compte qu'en face ça peut pas se passer que comme ils veulent, voilà.
Oui, parce qu'on s'en doutait un petit peu que c'était, ça allait être liberticide, mais à ce point-là, c'est quand même énorme, quoi.
On peut toujours discuter de savoir si on est dans un gouvernement fasciste ou pas. En tout cas, c'est des méthodes fascistes. Il y a certaines méthodes employées là qui sont complètement fascistes. On est dans une tournure complètement fascisante. Et en fait, on dit ça depuis des années, c'est liberticide, c'est fascisant et tout ça. À quel moment est-ce qu'il va falloir qu'on attende qu'il y ait 10 000 morts pour se dire qu'on est dans un état fasciste? Je me pose la question.
Ouais. Puis en plus, ils le font sur un état de traumatisme qui est passé émotif, par la télé, et il déroule le tapis rouge pour le FN au passage, quoi. Donc le fait que ce soit fascisant, c'est carrément...
Après, je suis même pas sûr...
Après, moi, je suis pas tout à fait d'accord d'employer le terme fascisant pour ça, parce que je pense que là, aujourd'hui, il y a tellement de confusion et d'amalgame qui sont dans tous les sens, que c'est bien d'être assez fin dans nos discours aussi, nous. Parce que tu vois, les sondages disent ouais, 95% des Français sont prêts à avoir moins de liberté pour plus de sécurité. Je pense que c'est des sondages, on peut pas trop s'y fier, mais bon, ça laisse quand même l'impression de l'ambiance qui parcourt la France. Du coup, je pense que c'est important d'être assez fin dans les manières dans lesquelles on analyse la situation. Et moi, simplement pour dire que le terme fascisant, je trouve qu'il est un peu trop il fait trop référence à il fait trop référence à des choses qui pour les gens sont trop lointaines. Mais oui, par contre, c'est sûr que liberticide, c'est sûr que il y a un tas de choses à dire sur ce qui se passe en ce moment, quoi. Ouais. Voilà.